Il reste que le problème que pose la bombe atomique n'est pas du même type que celui que pose le réchauffement climatique pour plusieurs raisons, mais au moins pour une raison qui me semble fondamentale, la crise écologique met en jeu une responsabilité d'un type nouveau, une responsabilité collective, c'est-à-dire une responsabilité de masse, incombant à chaque individu en tant qu'il prend part à un comportement de masse, par ses actions ou par ses omissions. Alors que la responsabilité de l'explosion de la bombe atomique, si cette catastrophe devait se produire, n'incomberait en tout état de cause qu'à quelques-uns, à ceux que Gunther Anders appelle les seigneurs de l'apocalypse, c'est-à-dire les chefs d'État, qui détiennent la bombe atomique. De sorte que, il n'y a ici aucun sens à parler d'un suicide de l'humanité. L'humanité serait, en l'occurrence, la victime globale des agissements de quelques coupables. Cette distinction entre l'auteur d'un acte et sa victime ne fonctionne pas, en tout cas pas de la même manière dans le cas de la crise écologique. Or, la négligence de ce point a conduit à la sous-élaboration, jusqu'à ce jour, de la problématique de la responsabilité collective dans le cadre de la réflexion écologique, au bénéfice de la problématique de la responsabilité envers les générations futures, qui est directement héritée de la réflexion sur la bombe atomique, puisque c'est là qu'elle fait sa première apparition historique. Et ce n'est pas le seul point aveugle. Il y en a d'autres qui sont peut-être encore plus graves, notamment, je trouve, l'absence de toute remise en question des prémices anthropocentriques du questionnement. Et là, je trouve que c'est transparent dans le livre de Karl Jaspers, qui est intitulé « La bombe atomique et l'avenir de l'homme ». Vous voyez, l'homme, parce que ça concerne que l'homme. L'absence de toute vigilance généalogique, de toute interrogation sur l'outillage mental des représentations utilisées, peut conduire à passer complètement à côté du sujet de la crise environnementale, comme c'est le cas, alors je ne vais pas ajouter à la vindicte publique, mais je suis frappé par le ratage systématique de la question écologique chez lui. Il a du talent, ses livres ne sont pas inintéressants, mais enfin la question écologique est systématiquement ratée. C'est chez Michael Fussell, dans le livre « Après la fin du monde », donc évidemment ça m'a intéressé, il est sorti juste avant le mien, et donc je me suis précipité là-dessus, et j'étais frappé de voir à quel point il ratait la question écologique, et il l'a récidivé là tout récemment dans le temps de la consolation pour exactement les mêmes raisons. C'est un manque de vigilance généalogique. Il ne réfléchit pas sur les concepts qui sont appropriés pour poser ce type de problème. Que faut-il penser à présent? J'en viens maintenant au point qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut penser à présent de l'utilisation qui a été faite en écologie du thème de la fin du monde, emprunté plus ou moins explicitement à la théologie apocalyptique, et qu'on retrouve sous une forme non pas allusive ou discrète, mais au contraire très appuyée et très détaillée sous la plume de Hans Jonas. Dans le principe responsabilité, vous avez une page apocalyptique et hallucinante, que je vous cite dans le livre, parce qu'elle est vraiment stupéfiante. Sous la plume de Michel Serres, qui à lui s'en prive pas, d'Edgar Morin, de Rudolf Barrow, chez Rudolf Barrow, c'est assez fascinant, sous la plume de Gunther Anders, cette fois-ci en liaison avec le péril nucléaire, lequel est d'ailleurs, Anders, le premier à faire un usage séculier du concept d'apocalypse dans le contexte d'une réflexion philosophique portant sur les nouvelles menaces collectives. Est-ce qu'on a affaire à l'un de ces transferts de chaînes discursives subreptices qui conduisent à passer à côté de la spécificité de la question environnementale et de ses enjeux? La question de la fin du monde et de l'humanité est-elle typiquement l'une de ces questions mal posées lorsqu'il en va de la crise environnementale? Alors, ma réponse, cette fois-ci je tiens mes promesses, ce que j'avais dit, je répondrai à la question appréhender la fin. Ma réponse est non, c'est une bonne question. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à examiner de près la façon dont les penseurs de l'environnement ont pu recourir au thème apocalyptique dans leurs écrits, c'est la conscience très vive qui est la leur des limites de pertinence d'une telle thématique pour poser le problème de la crise environnementale. En quoi je ferais volontiers l'hypothèse qu'ils sont tous redevables de la pensée de Gunther Anders, qui se sera montré le plus sensible aux analogies et aux différences irréductibles entre apocalypse biblique et apocalypse nucléaire, au point de consacrer la dernière section du dernier essai recueilli dans La menace nucléaire, un livre de Anders, à ce qu'il appelle une synopse de l'apocalypse chrétienne et de l'apocalypse nucléaire, c'est-à-dire un travail de repérage des caractéristiques communes. Pour ne pas se perdre dans le dédale d'un sujet aussi vaste et aussi complexe que celui de la tradition apocalyptique, sous ses diverses formes, juive, chrétienne, gnostique, je vais mettre l'accent directement la différence la plus remarquable entre les deux types d'apocalypse que Gunther Anders avait d'ailleurs parfaitement identifié, à savoir que l'apocalypse nucléaire et ou environnementale, de ce point de vue-là, je trouve que les deux chaînes fonctionnent de la même manière, est une apocalypse, comme dit Anders, sans royaume. C'est-à-dire une apocalypse non salvatrice, ne laissant place à aucune espérance, ne débouchant pas sur un monde rénové, mais sur d'autres horizons dont nul ne parvient à se faire une idée, et même à la limite, sur rien du tout. C'est ce que dit Lévi-Strauss. En matière d'éco-pessimisme, on est moderne. La fin du monde dont il est question en écologie n'implique pas l'ouverture d'une situation positive, la situation du royaume, entre annihilation et rénovation, mundi. Nous ne croyons pas que la situation actuelle contienne le germe d'une amélioration possible, que nous vivons dans un présent dans lequel un avenir meilleur a toujours déjà commencé. Nous avons perdu, comme le dit Anders, à la fois la croyance en un royaume sans apocalypse et en une apocalypse ouvrant sur le royaume. En ce sens, notre temps n'est pas celui de la crise, parce qu'il n'y aura pas de sortie de crise. En entendant par là, un retour à la situation normale qui a précédé la crise. Mais il est plutôt le temps de la mutation, c'est-à-dire du basculement vers un état nouveau, des conditions de vie commune. Il faut bien voir que ce que la démarche d'Anders et de tous ceux qui, à sa suite, ont repris à leur compte le schéma apocalyptique en sécularisant, il faut bien voir ce que cette démarche a de problématique et d'audacieux. Et de ce point de vue, il faut rendre justice à l'objection de Jürgen Moltmann, laquelle consiste à faire remarquer que l'idée d'une apocalypse sans royaume est une trahison du sens profond de l'enseignement de l'apocalyptique judéo-chrétienne, en tant que cette dernière vise à communiquer non pas l'effroi de la fin, mais la persévérance dans la résistance contre les puissances de ce monde. Chez Anders, dit grosso modo Moltmann, il ne reste de l'apocalypse que la catastrophe, et pas l'espérance. Or, les deux sont indissolublement liés, et c'est leur liaison qui donne son sens à l'expérience apocalyptique. Par conséquent, il faut s'interroger sur la pertinence d'une tentative qui vise à s'approprier sans théologie des possibilités de l'expérience qui ont été théologiquement posées. En sécularisant la structure apocalyptique, les contenus théologiques n'ont pas seulement été décomposés, l'expérience elle-même qui détermine n'est plus possible. Ou bien alors, il ne s'agit pas de la même expérience. Et c'est donc par abus de langage qu'on parle encore ici d'apocalypse. Bon, alors je trouve que cette objection est excellente. Mais en dépit de cette objection, je soutiens avec Anders et les penseurs de l'environnement qui ont puisé donc dans les ressources de l'apocalyptique, qui a un intérêt à poser les problèmes environnementaux dans les termes de l'expérience apocalyptique. Pourquoi ? Alors, j'ai plein d'arguments. Tout d'abord, parce que j'estime que le langage de la catastrophe et la perspective apocalyptique sont sans doute nécessaires pour donner une juste idée de la gravité du danger encouru, et qu'ils sont peut-être les seuls à prendre la mesure de ce que Dominique Bourg a appelé les dommages transcendantaux que pourrait provoquer la crise écologique en tant qu'il en va, d'où l'expression transcendantaux, de la condition aux possibilités même de l'épanouissement de la vie sur Terre, et donc de la préservation d'un bien qui conditionne la possibilité de tous les autres, naturels, sociaux, publics, privés, etc. Et de ce point de vue, l'éco-pessimisme d'un auteur comme Bertrand Meilleux dans son petit essai à succès « La politique de l'oxymore », lequel estime que nos sociétés modernes n'échappent pas à toute une série d'effondrements à venir, ne me paraît pas du tout comme étant inapproprié ou extravagant. Plus profondément, la force de l'apocalyptique environnementale pour l'élaboration d'une écologie politique tient à mes yeux à ce qu'elle constitue une fable postmoderne ou un paradigme permettant d'écrire la situation actuelle et donner un sens au réel, qui est celui de la crise environnementale, tout en nous offrant la possibilité de nous concevoir nous-mêmes comme des agents actifs au sein de l'histoire. Moyennant quoi, la thèse que je défends apparaîtra comme étant hautement paradoxale, parce qu'on a coutume de penser que la rhétorique alarmiste, apocalyptique, justifie une absence de résistance au présent, un fatalisme, une apathie, une forme de capitulation dont les effets démobilisateurs, alors là, pour le coup, seraient vraiment catastrophiques. Or, je pense que ce n'est pas tant l'hypothèse apocalyptique en tant que telle qui est nécessairement invalidante pour la mobilisation que l'usage qui en est fait dans certains récits de la crise environnementale où certaines composantes structurelles liées à l'imagination du désastre, aux projections catastrophiques, sont privilégiées au détriment de quelques autres, notamment de la forme très originale, je vais en parler juste après, de rapport au temps qui caractérise la conscience apocalyptique. Le pouvoir de l'apocalyptique environnementale tient à ce qu'elle offre un mode de figuration temporelle complet de l'expérience, un schéma de configuration narrative de la crise qui rend possible à la fois une relecture de l'histoire passée, une forme d'orientation vers l'avenir, déterminant un point d'insertion de l'action dans le présent. Alors, je vais reprendre les trois points, passé, avenir, présent. Sur le premier point, donc dans le rapport au passé, il est remarquable que la crise environnementale fonctionne littéralement comme une apocalypse, c'est-à-dire, vraiment au sens étymologique du mot, comme une révélation du sens et de la vérité du cours de l'histoire. Alors, tout le monde connaît le texte de Walter Benjamin, qui est un des tout derniers qu'il ait écrit, peu de temps avant de se suicider, sur le tableau de Paul Klee. Ça se trouve, vous savez, sur le concept d'histoire. Je vais vous le relire et vous allez voir ce que je peux en tirer. Voilà ce qu'il dit, le texte est magnifique. C'est page 434 dans les œuvres complètes. Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit lui qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Donc je vais reprendre ce texte-là en le lisant de manière un petit peu différente. Cette seule et unique catastrophe, comme il dit, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine, dont nous réalisons après coup qu'elle s'est produite et qu'elle n'en a pas fini de se produire, au point de déterminer aussi bien notre présent que notre avenir, aura été pour nous la catastrophe environnementale. Comme le dit John McNeill dans son livre, je trouve passionnant, « Du nouveau sous le soleil », qui est une histoire de l'environnement mondial au XXe siècle, les événements les plus importants qui sont produits au cours du siècle passé sont tous liés aux modifications environnementales. Je vous lis un passage. « La race humaine a lancé la Terre dans une expérience gigantesque non maîtrisée. Tel est le trait majeur du XXe siècle. Un trait qui, à l'avenir, devrait apparaître plus important encore que la Seconde Guerre mondiale. L'aventure communiste, l'expansion de l'alphabétisation de masse, l'extension de la démocratie ou l'émancipation croissante des femmes. » Fin de citation. Pour reprendre une formule de Nietzsche, une formule très célèbre de Nietzsche, on pourrait dire que les événements qui mènent le monde arrivent sur des ailes de colombe et qu'il aura fallu qu'éclate la crise environnementale pour que nous puissions enfin en percevoir l'enchaînement fatal. Contrairement à ce que nous avions pu croire, les acteurs qui auront joué un rôle proprement décisif au cours du XXe siècle ne doivent pas être cherchés parmi les classes dirigeantes ou celles des capitaines d'industrie. Ce sont le plus souvent des personnages obscurs et méconnus du grand public et des historiens. C'est Fritz Haber, prix Nobel de chimie en 1918, qui fut l'inventeur du procédé d'enrichissement des sols en azote et qui a été la cause de la principale pollution que le siècle a connue. C'est Thomas Midgley, inventeur du fréon, également chimiste de son état, dont on peut bien dire qu'il eut plus d'impact sur l'atmosphère qu'aucun être vivant quelconque dans l'histoire de la planète. Aurions-nous su les reconnaître pour ce qu'ils sont et leur attribuer le rôle de premier plan qu'ils ont joué dans l'histoire en l'absence de l'apocalypse environnementale? De la même manière, aurions-nous su accorder toute l'attention que méritent les informations que nous lisons dans la page 4 de notre quotidien, en découvrant que les campagnes de mesure au-dessus de l'Antarctique ne sont pas bonnes cette année, le trou de la couche d'ozone s'y agrandit dangereusement, et en lisant quelques paragraphes plus loin que les PDG d'Atochem et de Monsanto modifient leur chaîne de production pour remplacer les innocents chlorofluorocarbures accusés de crimes contre l'écosphère, si l'apocalypse environnementale ne nous avait révélé que de nouveaux acteurs, des êtres hybrides, prolifèrent désormais dans notre monde et exercent une influence déterminante. Voilà pour le passé. Donc, l'apocalypse environnementale sert de révélation, nous fait comprendre après coup ce qui s'est réellement passé. Sur le second point, donc dans le rapport à l'avenir, la thèse que je défends, sur laquelle le schéma apocalyptique peut fournir un mode de configuration narrative de l'avenir, n'apparaîtra paradoxal que si on commet une double erreur. D'une part, en se méprenant sur la fonction de la littérature apocalyptique dans la tradition apocalyptéologique, et d'autre part, en se méprenant sur l'originalité du thème apocalyptique tel qu'il est mis en œuvre en écologie. On commet donc premièrement un contresens historique total, en pensant que la littérature apocalyptique est une littérature de résignation, pour laquelle l'avenir est d'ores et déjà joué, car elle est à l'inverse une littérature de combat. Comme le dit très justement Jacob Taubes, la littérature apocalyptique est par excellence la littérature des zélotes. Elle s'inscrit dans la résistance spirituelle contre Rome. Les prophéties apocalyptiques servent d'encouragement à tenir bon dans l'adversité et d'avertissement à ceux qui seraient tentés de renier leur foi. Elles valent argument contre le fatalisme et la résignation et visent à lutter contre le désespoir. Le croyant fidèle ne peut certes pas hâter le dénouement ni l'éviter, mais il se trouve placé devant une alternative, obéir à Dieu ou se conformer aux valeurs du monde, ce qui équivaut à choisir entre la vie et la mort. Les prophéties annoncent qu'il est encore temps de se repentir et de placer sa confiance en Dieu, mais que ce temps est compté, car la fin est proche. Les prophéties exhortent donc le croyant à choisir au plus vite son camp. En outre, il faudrait distinguer entre l'eschatologie apocalyptique et l'eschatologie prophétique. La différence entre les deux tenant à ceci que, dans le cas des prophéties de malheur, la fin annoncée est conditionnelle. Les prophètes prédisent la fin du monde, mais toujours sous conditions hypothétiques, en déclarant que si vous continuez à agir comme vous l'avez fait jusqu'ici, alors malheur à vous, mais si vous vous repentez, alors le désastre sera évité. Donc, voilà, pour le premier point. Je touche pratiquement à la fin. D'autre part, on commet un autre contresens en ne voyant pas que l'originalité de l'apocalypse environnementale tient à ce qu'elle ne promet rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une apocalypse sans royaume, elle ne promet rien, mais pas même sa propre réalisation. Possible ou probable, l'écroulement universel n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain, parce que ni ne sait quand il se produira, ni même s'il se produira. Et c'est sur ce point qu'il faut sans doute critiquer l'usage qui est trop souvent fait de l'hypothèse apocalyptique dans certains récits de la crise environnementale. La projection d'une fin catastrophique, dûment chiffrée et calculée, à grand renfort d'expertise scientifique déterminant les points de non-retour, les points de bascule à ne surtout pas dépasser, les 2 degrés Celsius, en dessous desquels il faut absolument maintenir le réchauffement climatique, le seuil de 10 ans pour sauver la planète, etc., en polarisant l'humanité tout entière sur un point de catastrophe, a fini par nous convaincre de l'inanité de toute initiative individuelle et de l'opportunité de laisser à la science et à ses cohortes d'experts le soin de déterminer ce qu'il convient de faire. De la même manière, la représentation du réchauffement climatique considérée comme responsable de tous les maux le transforme en une sorte de boîte de Pandore, qui sera en fait la cause universelle et unique de tous nos problèmes. En adoptant ce type de configuration narrative de la crise, nous sommes fabriqués à un monstre politique, à un hydre à 1000 têtes que nous ne pouvons pas combattre, et qui bloque ou détruit toutes les possibilités pratiques de lutte et de militantisme, en occultant qui plus est tous les autres problèmes environnementaux sur lesquels nous pourrions agir, comme l'a très bien dit Guillaume Saint-Denis dans Le climat qui cache la forêt. Or, la force du schéma apocalyptique peut tenir à ce qu'il annonce une catastrophe dont l'avènement est constamment différé, au point de pouvoir même survivre à tout démenti par l'événement. L'apocalypse offre le modèle d'une prédiction sans cesse infirmée, et pourtant jamais discrédité, et donc d'une fin elle-même sans cesse ajournée, c'est-à-dire d'une fin non plus imminente, mais immanente. La crise, devenue une péripétie indéfiniment distendue, n'exprime pas tant alors la fin des temps que le temps de la fin, c'est-à-dire non pas le moment précis où la fin survient, mais la période de transition, au cours de laquelle des événements apocalyptiques apparaissent, et qui se présentent non pas sous la forme d'un événement unique, catastrophique, d'un point de catastrophe, d'un point de bascule, mais d'une série de points de bascule d'une magnitude plus ou moins grande, située à différentes échelles, allant de l'échelle écosystémique à celle de la biosphère. Moyennant quoi, on a réussi, sans se représenter les choses comme ça, à élargir le champ de l'action et à multiplier les seuils critiques exigeant de notre part une vigilance permanente. Dès lors que l'apocalypse est conçue comme l'ouverture d'un espace de transition, et dès lors qu'on comprend que elle implique une certaine orientation de la conscience dans l'avenir, il devient possible de comprendre de quelle manière elle peut donner un sens au présent, donc le troisième point, au présent de l'action et de l'initiative. Comment la chose est possible? Eh bien, l'indétermination de ce qui vient, puisqu'on ne sait pas si ça va se produire, on ne sait pas quand ça va se produire, etc. L'indétermination de ce qui vient retire à l'attente son horizon d'attente. Et du coup, cette indétermination la transforme en une attente de ce qu'on n'attend pas ou de ce qu'on n'attend plus. Elle détourne l'attention de ce qui est à venir en direction de ce qui se trame ici et aujourd'hui, sous la forme de nos manières de voir et de se rapporter au monde et d'y agir. En ce sens, il conviendrait de parler non pas tant de récit de l'apocalypse, mais plutôt du drame de l'apocalypse, dans la mesure où, à la différence du récit, le drame engage infiniment plus le spectateur ou le lecteur en lui donnant le sentiment qu'il est l'un des acteurs du drame, qui se joue sur la scène, dont l'avenir dépend en partie de la façon dont il saura tenir son rôle. Il resterait à inventer ce que Isabelle Stengers a appelé une pragmatique des situations de catastrophe écologique, c'est-à-dire un ensemble d'expériences pratiques, de techniques, d'artifices capables de produire les capacités collectives de se mêler des questions qui concernent l'avenir commun, et de se mêler d'abord et avant tout, c'est la proposition que j'ai défendue, de la manière dont ces questions sont formulées. Il faudrait réussir à libérer un espace pratique où une action peut être entreprise et où une réflexion peut s'élaborer. Et en ce sens, on peut s'interroger sur le caractère judicieux d'un certain discours écologique, pédagogique, adopté dans les milieux écolos, lequel consiste à déverser une pluie de mauvaises nouvelles qui n'ont souvent pour effet que de renforcer le sentiment d'implacabilité, de l'horreur, dont chacun essaye alors de se défendre. On aura raison de dire que, alors, dans ces cas-là, l'évocation d'une catastrophe environnementale, si elle est donnée comme étant inéluctable, est vouée à produire des effets de paralysie qui court-circule la dynamique de responsabilité collective. Mais ce qui est en cause, ce n'est pas tant la pertinence du schéma apocalyptique que l'usage qui en est fait, et dont un travail généalogique peut montrer qu'il s'effectue au rebours de la signification profonde de ce thème et au mépris de ce qu'il peut apporter à une pensée de l'environnement. C'est ce qu'a fort bien vu, et je finirai avec lui, Slavoj Žižek, dans un texte qui est lui-même très critique à l'endroit de la pensée de l'environnement. Mais c'est un discours qui reprend également à son compte, dans un texte qui est inédit, encore en français, qui a été publié en anglais dans un volume qu'il a coécrit avec un titre qui s'appelle Gunievich. Le livre est intitulé God in Pain. Je vais vous lire un passage, je traduis. Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il écrit. Oui, bien sûr, il y aura une catastrophe, mais soyez vigilants, n'y croyez pas. Ne vous laissez pas aller à faire des extrapolations hâtives. Ne cédez pas au malin plaisir de penser « la voici » en lui prêtant différents visages, celui du réchauffement climatique, qui nous submergera tous dans une dizaine d'années, celui des transformations biogénétiques, qui signifiera la fin de l'humanité, etc., etc. Loin de nous jeter dans un ravissement autodestructeur, l'adoption d'une posture proprement apocalyptique est aujourd'hui plus que jamais le seul moyen de garder notre sang-froid.